Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
Bonjour ou bonsoir, Théologie en liberté. Alors vous savez, vous connaissez notre émission. J'ai interviewé plusieurs personnes responsables de la région nîmoise, des théologiens, des philosophes, des gens qui sont d'origine protestante, d'autres pas. Des personnes qui s'approchent des questions spirituelles, mais qui finalement se considèrent comme non-croyants. Et puis des protestants qui ont du mal à croire. Alors, il y a tous les cas de figure, mais pour cette émission, alors là, c'est le haut de gamme. J'en vais parler avec deux amis, Bernard Cavalier et Jacqueline Dom. L'une, Jacqueline, est dans les hautes sphères du protestantisme, rue de Clichy, à Paris, mais elle va se présenter et elle va nous dire certaines choses. Mais donc, elle a été secrétaire à 47 rue de Clichy. Je ne suis jamais allé à la rue de Clichy. Je ne sais pas si ça existe vraiment.
C'est très grave.
Ça existe vraiment, alors. Voilà. Et donc, dans le secrétariat de la Fédération protestante de France, sur le plan national, mais aussi, tu connais l'Église un peu internationale, parce que ton père a été pasteur en Suisse, tu avais des grands-pères pasteurs en France, enfin, tu connais beaucoup de choses, et puis aussi les églises missionnaires, tu nous en parleras. Et puis Bernard Cavalier, qui a eu beaucoup de responsabilités, qui a encore beaucoup de responsabilités dans l'Église, et qui a été le premier président du conseil presbytéral de Nîmes au moment du passage de l'ERF à l'EPUF, Église réformée de France, à Église protestante unie de France à Nîmes. Et donc c'est quand même assez important de diriger un conseil presbytéral comme à Nîmes, l'animer et puis prendre toutes les décisions qui incombent à une église qui est consistoriale avec plusieurs pasteurs. Donc vous avez, et puis tu vas nous le dire, mais tu es prédicateur laïque, tu es membre du groupe local Évangile Liberté, tu es reconnu comme très libéral, original, intéressant et sympathique. Et vous êtes tous les deux très sympas.
C'est un peu exagéré tout ce que tu dis, mais enfin continue, j'aime ça. Hein.
Voilà, non mais vous allez vous présenter. Alors Jacqueline, tu t'appelles Dom, mais tu vas nous le dire que tu as vécu aussi en Polynésie, avant d'être... Et en fait, ton père pasteur, c'est Schindler.
Oui, Suisse.
Suisse. Et puis ton grand-père, c'était Lacheret.
Voilà.
Donc ta maman était une fille Lacheret. Et c'est aussi la dynastie pastorale. Donc tu es... Et avec ton mari, vous avez eu aussi une vocation et un travail missionnaire, et puis avec beaucoup de responsabilités sur le plan de l'Église. Et Bernard, donc j'ai été le pasteur de ta maman, je le rappelle, et toi tu as été le médecin de mes enfants.
Et je m'en souviens. Ouais.
Sur la ville de Nîmes, tu es connu comme un très bon médecin, et tu as accompagné des familles pour les enfants. Et puis, donc, maintenant tu es prédicateur laïque, mais tu m'avais dit qu'il y a plusieurs générations de prédicateurs laïques chez toi.
Oui, en fait, en reprenant un peu la vie de mon père et puis la vie de ma famille, j'ai réalisé que mon arrière-grand-père était déjà prédicateur laïque. Mon grand-père était prédicateur laïque, mon père était prédicateur laïque.
Formidable. Ouais.
Et moi aussi. Et je pense que malheureusement, ça va s'arrêter là.
Probablement. Bon,
mais enfin, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite.
Oui. Voilà. Alors, Jacqueline.
Moi, j'ai toujours été étonnée par ce mot, le sacerdoce universel. Quand j'étais jeune,
ah oui.
Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, j'ai compris que nous, les femmes, on pouvait faire comme les hommes dans l'Église.
Ah oui, et oui.
Et que surtout, on pouvait aussi prêcher. Pourquoi? Je voulais dire que,
voilà.
Fille de pasteur, on a fait son caté, où j'ai rencontré mon homme. J'avais 14 ans, il en avait 17. Et c'est resté mon mari, il a fait 64 ans cette année. Bref, on s'est dit, on était très engagés dans l'Église, lui était art décoratif, graphiste, moi j'étais secrétaire. On s'est dit, on ne va pas s'installer sans bourgeoisie en Suisse, c'est pas intéressant. Donc on va partir. Les parents nous ont dit, en mission, on est protestants, vous n'allez pas partir à l'aventure avec des ONG. on a obéi aux parents. Donc, nous sommes allés à Paris et nous sommes partis avec la Société des Missions Évangéliques de Paris.
Ah oui, d'accord. Ce qui est devenu la mission
actuelle. Le DFAP.
Oui.
Et on nous a dit très bien, monsieur art décoratif, professeur de dessin en Afrique. Il y a un grand collège à Yaoundé, ce sera très très bien, un gars qui fera professeur de dessin. Madame, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles aidaient, mais elles ne travaillaient pas au niveau financier. Donc, le mari était payé, mais pas les dames. 3 mois avant le départ, on ne dit pas du tout changement de lieu.
Oui.
Il se trouve qu'à Tahiti, dans une petite île, il y a un internat de 52 enfants primaires qui n'a pas de directeur. Donc, monsieur, vous devenez directeur d'un internat de 52 enfants comme métier. On n'était pas du tout préparé, donc nous faisons tous les deux un BAFA, vous savez ce que c'est.
Oui,
bon.
D'accord, oui.
Et on nous envoie, donc c'était dans les îles, c'était même pas à Tahiti, où pendant 4 ans, on dirige un internat. Donc on était jeunes mariés avec 52 enfants.
Ah là là, oui d'accord.
Et c'est
mais,
là-bas.
Mais vos filles sont nées à Tahiti.
C'est là-bas que j'ai eu 2 enfants.
Ah
voilà.
C'est ça, oui d'accord.
Puisqu'on est resté 10 ans. À l'époque, vous partiez en bateau, écoutez bien, Marseille-Papété, 30 jours, en bateau.
Ah,
je
ne
sais pas si vous imaginez,
oui.
Par le canal de Suez. Et on restait 4 ans sans revenir. On ne pouvait même pas faire des mails ni des téléphones aux parents, c'était rare. Et au bout de 4 ans, on revenait pendant 1 an. Et souvenez-vous, autrefois, les conférences missionnaires.
Oui.
Pendant 1 an, on rentrait chez soi et on passait d'une paroisse dans l'autre pour faire des conférences missionnaires, ce qui rapportait de l'argent
oui.
à la mission. Et on est reparti 4 ans. Donc, on a fait 2 fois 4 ans, 8 ans.
Oui.
Où mes deux
et puis
enfants
alors,
sont...
et c'est après
après, on rentre et on se dit,
on
va revenir en Suisse. On va à ce moment-là s'installer tranquillement, etc. On avait 6 mois de congé quand on nous appelle. On vous attend à Paris, il y a un poste pour monsieur, le DFAP, là, il faut quelqu'un qui s'occupe des finances. Monsieur Dom a l'air très sérieux, va s'occuper des finances. Or, avec sa formation, il n'était pas financier du tout. Donc, il a suivi des cours pendant 6 mois pour devenir le trésorier du DFAP, où il est resté 10 ans.
Donc, et toi, de ton côté,
très
rapidement, tu as été secrétaire
du
président dans la Fédération
professionnelle
de France.
Une histoire plus belle, c'est qu'il y a une certaine dame que peut-être vous connaissez, Madeleine Barrault, célèbre, qui rentre après 20 ans de travail à Genève, elle s'installe à Paris et elle voudrait s'occuper des relations internationales, parce que cette femme avait voyagé dans le monde entier.
C'est ça.
Donc, elle dit, j'ai besoin d'une secrétaire qui parle anglais, qui se débrouille. Alors, on dit, ben, Jacqueline Dom, ça fera très bien. Et je me rappelle, en 1er avril 73, je rencontre cette femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'elle. Elle était imposante, un peu sévère, etc. Et elle me regarde et elle me dit, bonjour madame. À Genève, au Conseil œcuménique, j'avais 4 secrétaires à plein temps.
Oh.
J'arrive à Paris, à la Fédération protestante, on m'en met une à mi-temps.
Une seule. Oh là là.
Parce qu'elle n'avait pas de... Alors, vous ferez affaire, j'espère. J'avais un peu la trouille, mais je suis tombée sur une femme extraordinaire. J'ai fait 8 ans avec elle.
Oui.
Et c'est elle qui m'a tout appris, vraiment. Elle a été extraordinaire. Elle connaissait le monde entier. Elle avait été en Chine et ailleurs, etc. Et c'est comme ça, après, par la force des choses, qu'on dit Jacqueline Dom étant compétente, elle va devenir la secrétaire des présidents de la Fédération.
Oui,
j'ai remplacé
bien,
une demoiselle qui avait fait 20 ans. Et après, c'était Madame Dom. Et j'ai commencé avec ce pasteur Maury, pour certains qui le connaissent.
Alors, le lien avec le midi, parce que j'ai rencontré Jacqueline, ta sœur, qui était organiste dans l'église protestante à Castelnaudary. Maintenant, elle est à Montauban.
Ouais.
Et d'ailleurs, vous ressemblez beaucoup. Je vous ai vues toutes les deux mais, au musée du désert l'année dernière. Mais donc, vous êtes venus le midi, Nîmes, pour vous,
alors,
la famille Dom, c'est...
Le midi, il faudrait dire que mon grand-père maternel était pasteur à Aulas. Est-ce que vous connaissez Aulas?
Oui.
Ma mère s'est mariée à Aulas, dans le petit temple de Aulas,
à côté
en
du
1935.
Vigan.
Voilà.
À côté du
donc, il y avait de l'attache française, parce que ma mère française... En 1939, on a dit, vous devez aller rentrer en Suisse. Mon père était suisse.
Ah, oui.
Donc, voilà pourquoi depuis 1939, mes parents habitaient en Suisse, mais avec un cœur un peu en France.
Ah, c'est
voilà.
Ça. Oui.
Donc, nous, c'est très simple. J'ai dit à Freddy, comme on n'a pas de biens familiaux en Suisse, je voudrais du soleil, parce que 10 ans de Tahiti, je n'ai pas envie d'être en Suisse à avoir froid ou en Savoie. Et j'aimerais des protestants. Parce que des fois, je remarquais qu'en France, il fallait faire 30 km pour aller au temple. Alors, moi, j'ai dit, je n'ai pas envie. Et 2 messieurs que connaissent beaucoup, je pense, d'auditeurs, Pierre Clavel et René Bosque, qui à l'époque étaient en vie et connaissaient bien mon mari, m'ont dit à mon mari, allez, viens à Nîmes, t'auras le soleil, les protestants, tu seras très heureux. Et on est arrivé à Nîmes en 2002, ne connaissant personne, puisque ses 2 amis étaient décédés. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le Sud.
Et Pierre Clavel a été trésorier national de l'Église réformée de France. Et actuellement, c'est son fils qui est le président, le successeur de Bernard Cavalier.
Alors,
Bernard Cavalier, toi, le lien avec Nîmes, c'est ta famille.
Oui, moi, je suis né par les hasards du métier de mon père en Lorraine, oui. Mais de parents cévenols.
De deux côtés.
Mon père était de 3 km en amont de Valrogue et ma mère de 2 km en aval, mais ils se sont connus à 20 ans grâce à un pasteur qui était un peu marieur et qui faisait qu'il faisait se rencontrer les jeunes gens et les jeunes filles, parce qu'ils étaient originaires de là, mais ils n'habitaient pas là.
Ah oui, c'est
mon père habitait à Nîmes et ma mère était élevée par une de ses tantes et elle a vécu à Menton, un peu partout à travers la vaste France.
Oui, oui, oui. Et vous avez choisi, avec ton épouse, au moment de la retraite, de rester ici à Nîmes, bien sûr.
Ah non, mais moi, alors, j'ai toujours... Après, mon père est mort quand j'étais très jeune, j'avais 9 ans. Ouais. Donc, ma mère est revenue dans le Midi à Nîmes, puisque c'était sa ville de prédilection.
Ouais.
Et puis, c'était la ville de la famille. Hein. Donc, j'ai toujours vécu depuis à Nîmes.
Alors, l'importance de la foi. Parce que alors, c'est vrai que quand on est dans les hautes sphères de l'organisation de l'Église, on pourrait dire la boutique Église, c'est suffisant. Après, mais alors qu'il y a une faiblesse dans la foi, il y a une recherche, il y a quelque chose, mais qui est un peu de l'ordre de l'intime. Mais qu'est-ce que vous diriez ? Je sais, Bernard, que je te trouve, et j'ai beaucoup d'amitié pour toi, mais je te trouve, moi, normalement, je suis pasteur libéral, mais je suis assez modéré. Et toi, je te trouve encore beaucoup plus libéral que moi. Tu es assez critique par rapport à la foi. Mais en même temps, tu as une expérience, comme tous les deux, je sais que vous avez une expérience spirituelle. Il y a du vécu derrière le mot foi pour vous. Vous commencez par Jacqueline ou...
Moi, des fois dans ma vie, je me suis dit, j'aurais tellement voulu être converti. J'aurais tellement voulu découvrir...
À partir de rien, quoi.
De rien,
ouais. Ah oui.
Quand j'entends des gens qui, à 30 ans, rencontrent quelqu'un, se mettent à lire la Bible et découvrent la foi et qui se font baptiser ou pas, je suis toujours admirative.
Ah oui.
Moi, en somme, je suis tombée dans le chaudron, vraiment, depuis 4 générations de pastorale.
Oui.
Et finalement, contrairement à beaucoup d'enfants de pasteurs, je n'ai pas pris la poudre d'escampette, vous voyez.
Ah oui.
Beaucoup d'enfants de pasteurs, j'ai dû avoir des parents très équilibrés pour nous laisser libres de choisir ou de ne pas choisir. Et quand avec mon mari, on a dit on part en mission, c'est qu'on avait envie de servir. Alors la foi, pour moi, j'allais dire, c'est la confiance, c'est ma vie, c'est tout. Là, j'apprends qu'un petit enfant meurt hier, mais je prie quand même le Seigneur pour qu'il entoure ses parents. Je veux dire, la foi, il me semble que c'est quelque chose qui m'habite.
Ouais.
Et quand j'en rencontre des gens qui sont malheureux, et il y en a beaucoup, j'essaye de leur dire, mais quand même, il faut avoir de l'espoir. Le Seigneur nous aime tous, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse. Mais enfin, justement, moi, je pense que je suis moins libérale que vous quand je vous entends parler. Je suis un peu plus classique dans ma façon de lire ma Bible ou de prier. Il me semble que Bernard avait l'air de dire qu'il ne prie pas forcément tous les jours.
On ne dénonce pas son collègue.
Non, mais il a dit cette phrase qui m'a beaucoup...
Elle peut me dénoncer,
non, mais
ça
cette
ne me
phrase
gêne pas
m'a,
du tout.
M'a beaucoup, non pas traumatisée, mais travaillée. Je me suis dit, bon, alors, il est croyant, forcément. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour
et
nous.
Et encore, je crois que Bernard le conteste. Non, il faut, dans le protestantisme, il faut assumer
nos
remises en question.
J'assume, oui, mais moi, j'assume totalement.
Voilà.
Alors, pour ce qui est du parcours de foi, moi, je suis né dans une famille croyante.
Ouais.
Quand
ouais.
mon père est décédé, j'avais la foi du charbonnier.
Ouais,
comme mon papa était mon héros, je pensais que Dieu allait faire comme pour Jésus,
ouais.
qu'il allait ressusciter son héros.
Et oui.
Donc j'ai prié un temps.
Ouais.
Et puis mes prières, elles ont été vaines. Hein. Donc Dieu, il n'est pas venu. Par contre, la foi, pour moi, ça ne correspond pas à quelque chose de rationnel, ça correspond à du vécu. Ce que je peux dire, c'est quand je suis arrivé à Nîmes, ma mère nous a mis à l'école biblique et c'est un lieu où j'ai été accueilli. J'ai été accueilli enfant avec des gens qui étaient extrêmement bienveillants. Je me souviens du pasteur Ingrand qui était un traditionnaliste. S'il m'entendait parler, il dirait mais c'est un hérétique.
Mais parce qu'il était orthodoxe.
Oui, très orthodoxe.
J'ai beaucoup entendu parler de lui comme un pasteur apprécié, gentil,
mais
il était très orthodoxe.
Il était d'une très grande humanité, d'une très grande modestie. C'est en lisant le livre « Nous l'avons fait parce que nous devions le faire » que j'ai découvert que pendant toute la guerre, il est parti cacher des juifs chez des confrères, etc. C'était un homme de grande modestie et qui nous faisait en même temps une extrême confiance puisque c'est le premier lieu où on m'a fait confiance dans la vie. absolument confiance. Après l'école, après la première communion, on nous laissait aller à la Gazelle. On était toute une bande de jeunes,
oui,
garçons
ouais.
et filles.
Ouais.
On faisait des pièces de théâtre. On y était tous les dimanches du culte jusqu'au coucher du soleil.
Ouais.
Personne n'est jamais venu nous contrôler. On nous a fait une confiance absolue. Donc j'ai vécu toutes ces choses-là et ma foi, elle a évolué petit à petit avec le temps. Et elle est passée de la foi de l'enfant à la foi de l'adulte. Alors qu'est-ce que c'est que la foi ? Ben, la foi, c'est... Comment dirais-je ? Je dirais que, pour moi, ma vie serait totalement différente si je n'étais pas, si je n'avais pas cette relation à Dieu.
Oui.
Mais Dieu, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quelle est sa puissance, je ne crois pas vraiment tout puissant,
oui.
mais je sais que j'ai besoin de... je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas ce parcours-là.
Oui,
qui est particulier.
C'est plus une interrogation qu'un savoir, finalement. Là,
c'est absolument pas de l'ordre du savoir.
Savoir, oui.
C'est propre à moi, c'est ma propre façon à moi de croire.
Puisque tu dis que je ne serais pas le même homme si je n'avais pas la foi.
Oui.
Donc ça veut quand même dire que cette foi, elle te nourrit, elle t'apporte quelque chose de supérieur.
Oui, bon. Mais elle m'apporte quelque chose de très important, de supérieur. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de rationnel à cela. Et je pense que tous les choix les plus fondamentaux de notre vie échappent au rationnel. Pourquoi as-tu épousé ton mari et pas un autre ? Pose-toi cette question. Il y a des millions d'hommes qui auraient correspondu
oui.
et avec lesquels tu aurais pu être aussi heureux. Pourquoi as-tu fait ce métier et pas d'autre ? Pourquoi à certains moments de ta vie as-tu pris telle direction et pas telle autre ? Tu serais incapable de le rationaliser. Tu vas chercher à le rationaliser, mais ce ne sera pas la clé. Ben moi, pour moi, la foi, c'est pareil. J'essaye pas de la rationaliser, mais je sais que sans cette relation à cette entité que j'appelle Dieu, je ne serais pas le même.
C'est
donc
ça.
Dieu existe, malgré ce que tu dis, et ce n'est pas un Dieu tout puissant.
Ah, mais je n'ai pas dit
pour
qu'il
moi,
existait
Dieu,
pas.
Pour moi, Dieu, c'est l'amour. Pour moi, Dieu, ce n'est pas la puissance. Le Père éternel, ça ne me plaît pas.
Ouais.
Moi, je dis, Dieu, c'est l'amour avant tout. C'est ça qui compte.
Ouais.
Il aime tout le monde, même le tueur, etc. Donc, je dis, c'est quand même extraordinaire, cet être suprême qui est là et qui tient le monde entier dans sa main. Moi, j'y crois. Je crois.
Ah mais voilà. je crois que d'une certaine façon, il le tient, mais je n'y crois pas.
Scientifiquement, oui.
Non, mais si tu veux, pour moi, c'est bon, les psychanalystes diraient peut-être, enfin, je fais de la psychanalyse de bistrot, là, hein, mais diraient peut-être, c'est le surmoi. C'est cette espèce d'entité qui me tire toujours vers le haut,
oui.
qui fait que j'arrive à ne pas me conduire un peu trop, pas trop, de façon pas trop méprisable. Et puis surtout, chaque fois que je suis tiré vers le haut, je pense que c'est cette entité-là que je nomme Dieu
oui.
qui me tire, mais sans savoir à quoi elle correspond exactement.
C'est ça, oui. Ça correspond plutôt à un chemin, à
oui, oui, mais
une évolution.
C'est
dans la
chemin.
Vie, on est embarqué dans un certain sens. On ne choisit pas avec, de façon rationnelle tous les
bien
éléments.
Bien sûr, mais je pense que
on est embarqué par une histoire.
Tous les choix les plus fondamentaux de notre vie échappent au rationnel. On est dans une société qui prétend être rationnelle,
oui.
cartésienne, et en réalité, chaque individu dans cette société, au moment des choix fondamentaux, il est obligé de reconnaître que ce n'est pas
oui.
là-dessus qu'il s'appuie, c'est sur autre chose.
Mais là où vous ressemblez, Jacqueline et Bernard, tous les deux, c'est en fait, vous avez reçu la foi de l'environnement, de votre enfant, etc. Ouais. Et en fait, ça s'est assez bien passé. Il n'y a pas ouais. eu de conflit entre le groupe église, paroisse et identité spirituelle, sentiment religieux. Oui.
Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de conflit avec le groupe Église parce que je suis tombé sur des gens extrêmement bienveillants qui
ah,
ont
oui.
accepté mes interrogations,
oui.
qui ont accepté, j'étais un peu insolent quand j'étais jeune, qui ont accepté mes insolences et qui peut-être maintenant je réalise que pour un pasteur traditionnel, enfin un peu, pas conservateur, mais
classique
oui.
ça devait avoir quelque chose quelquefois d'un peu provoquant.
Ah oui.
Et ça a toujours été... Donc j'ai pu cheminer de la foi d'enfant qui croyait que Dieu allait ressusciter son père, à la foi de l'homme qui pense, comme Jacqueline, que Dieu est tout amour et que c'est ce qui nous reste quand on n'a
oui.
plus rien.
Oui.
Eh bien, il y a tout un cheminement à faire qui ne s'est pas fait de façon classique parce que, effectivement, j'ai découvert de la bienveillance parmi les gens de l'Église qui m'ont conduit, qui m'ont aidé à cheminer.
Et moi aussi, quelque chose que j'aimerais dire, c'est que Je n'aime pas faire du prosélytisme, quel qu'il soit. Hein, quand oui. je rencontre quelqu'un, là, ma voisine, je descends de la rue, je lui dis, venez donc à la foire aux livres, samedi, vendredi et samedi, vous verrez, c'est formidable. Et elle me dit, je ne suis pas protestante. Je lui dis, mais aucun problème, nous avons cette grande foire aux livres à la maison, je vais montrer la rue, etc. Ouais. Venez donc, c'est très bien. Et moi, je vois justement, ce que j'aimerais, c'est que la façon dont je vis, c'est-à-dire ouais. ce que je fais ou ce que je dis, soit un peu un exemple à d'autres. Voilà ce que je veux dire.
Oui, c'est ça.
Aimer son prochain, rendre service. J'ai trop tendance à vouloir rendre service. Et maintenant que je ne suis plus dans les instances du tout, il faut que je fasse attention de ne pas dire à quelqu'un oui. « Tu devrais plutôt faire comme ça ». Je me rappelle quand j'étais dans les conseils de paroisse, comme ça je donnais des conseils. Oui. Maintenant, je sais que je ne dois plus trop faire ça. Oui. Quand je vois dans un temple quelque chose qui ne va pas trop bien, je dis « Tiens, si j'avais été au conseil, j'aurais peut-être fait comme ça ». Enfin, mais voilà. Donc moi, je trouve que notre vie personnelle, la façon dont on vit, la façon dont on parle, oui. la façon dont on pense, ça devrait être une image pour que les gens disent « Tiens, qu'est-ce oui. qu'elle a cette femme ?»
Oui,
elle a un petit quelque chose, oui. c'est quoi ?
Mais en même temps, on ne peut pas prévoir à l'avance, parce qu'on vit ceci, cette dimension spirituelle et chrétienne dans le protestantisme, avec dans le cadre d'un monde qui bouge énormément, les identités des générations qui arrivent, nos enfants. Oui. C'est dans un monde qui complètement bouleversé. Alors, voilà. on ne peut pas trop prévoir.
Non.
On accompagne les gens, on fait ce qu'on peut. Alors, aussi, c'est aussi un chemin ouais. et une hésitation, une recherche.
Mais c'était aussi un chemin pour l'Église.
Oui.
Comment annoncer l'Évangile de la grâce actuellement,
aujourd'hui,
oui.
en 2026 ?
Oui.
Ça correspond, il y a vraiment toute une réflexion théologique là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'annoncer l'Évangile de la grâce ?
Et oui, avec le langage aussi. Est-ce que notre langage est assez démodé ?
Mais c'est plus qu'une question de langage, c'est une question d'essence même.
Oui. Ouais.
Quel rôle ?
On est quand même dans un monde et dans un continent déchristianisé. Je veux dire, l'Europe en entier,
oui.
à moins qu'il y ait des pays que je connaisse mal, mais il y a peu de pays européens où les mouvements d'église sont en développement, si oui. ce n'est, comme on en parlait tout à l'heure, du mouvement évangélique. Alors, c'est un autre oui. monde que nous, etc.
Oui.
Mais donc, c'est vrai que notre église locale est un peu en diminution.
Oui,
on m'en racontait l'autre jour, parce que nous avons eu, je crois, 4 catéchumènes l'an dernier,
oui.
et on me disait, mais Jacqueline, au temps où j'étais catéchumène, on était 58. Un monsieur oui. me dit au culte,
paroisse.
Voilà, exactement.
Par paroisse,
ouais. C'était vraiment. Donc ça, c'est déjà c'est un signe que
oui.
on n'a pas su intéresser notre jeunesse. Et,
oui.
et s'il n'y a pas de jeunesse dans l'Église, ben un jour, est-ce qu'elle va pas
Mais les Nîmois protestants, on les trouve partout, à Lyon, à Toulouse, à Paris, à l'étranger. Et c'est vrai que bon, mais dans notre Nîmes et Montpellier ont accueilli les Cévenols, et puis ces Cévenols maintenant sont un peu partout. Et alors donc c'est vrai, il y a une évolution sociologique qui est assez inquiétante, mais d'un autre côté, à vivre par la foi, c'est pouvoir surmonter les questionnements, enfin aller au-delà. Est-ce que vous avez vécu des remises en question théologiques, Bernard ?
Alors moi, je voudrais qu'on
question.
Précise au micro que mon
oui.
frère Bernard a fait une formation théologique puisqu'il est prédicateur laïque. Moi-même, pas du tout. Donc je suis une laïque pure et... Enfin pas, non, je suis une laïque non formée en théologie. J'ai été à des études bibliques.
Oui.
J'ai fait un peu monitrice d'école du dimanche quand j'étais jeune. Et ensuite, dans toutes les paroisses où j'étais à Paris ou ailleurs, je suivais des études bibliques, donc je connais ma Bible. Mais je n'ai jamais étudié vraiment la théologie, ce que Bernard a fait.
Oui, alors donc, moi je ne suis pas du tout théologien, non.
Oh, mais quand même.
Les remises en question théologiques, ce sont les remises en question sur la nature de Dieu, sans qu'on puisse la
ouais.
cerner. Quand tu passes de la situation d'enfant où tu penses que Dieu est tout-puissant et à la situation d'adulte où tu penses qu'il ne l'est pas, tu te poses la question de... Alors, quelle utilité existe-t-il ? Quelle place a-t-il ? Où est sa toute-puissance ? Est-ce qu'il est tout aimant ou tout-puissant ? S'il est tout-puissant, ben, il n'est pas vraiment tout aimant, hein, parce qu'il y a tellement on voit tellement de cochonneries, parce que je ne vois pas un père de famille disant à son gamin, puisque tu as volé de la confiture, je vais te donner du diabète. Ce Dieu tout aimant, il ne peut pas être tout-puissant, ou alors sa toute-puissance, eh bien, elle est autre. Et je pense que, à la lecture d'un certain nombre de textes de Gounel en particulier, je me suis fait une idée de ce que c'était cette toute-puissance et cette capacité à ne jamais renoncer, à ne jamais renoncer à une évolution heureuse et possible de l'humanité. Oui. Et mon espérance, elle est là.
André Gounel, qui est Cévenol d'origine aussi, de la région du Vigan, à côté d'Aulas. Et enfin, André Gounel a été un professeur de théologie à Montpellier, et il a beaucoup travaillé la réponse de la foi par rapport à l'athéisme, aux remises en question modernes. Et en fait, il a avancé un peu avec des théologiens américains qui aiment beaucoup travailler entre la physique et la théologie. La process théologie qui parle plus d'une sorte d'évolution, un Dieu qui est en mouvement plutôt qu'une sorte de Père Noël suprême matériel.
Et puis la deuxième remise en question, c'est quand j'étais enfant, je croyais que, et alors là je pense que c'est important, je pensais que la Bible c'était un livre d'histoire, que ça s'était vraiment passé. Et que les gens qui écrivaient dans la Bible étaient inspirés, que Dieu leur dictait ce qu'il fallait faire, enfin, ou presque.
Oui.
Et puis, avec le temps, j'aurais pu dire, bon, ça c'est idiot, on va passer à autre chose.
Oui.
Et puis je me suis dit, non, finalement... l'histoire de la relation entre le Dieu et les hommes, elle s'écrit toujours. Elle a commencé à un certain moment et ce sont des hommes qui ont dit « Voilà comment nous concevons ce que peut être ce Dieu pour nous. » Alors c'est un Dieu qui leur a dit « Écoutez les copains, si vous restez avec la loi du plus fort, ça ne va pas pouvoir le faire. Oui. Il va falloir passer à autre chose. Donc, on met une loi. » Et puis, il y a un homme qui est arrivé et qui a dit « Mais la loi, si elle est vidée de l'empathie, de l'agapé, elle sera obsolète. » Donc, c'est tout ce cheminement qui s'est fait, mais ça s'est fait petit à petit sans qu'il y ait eu de grands jours.
Ah, c'est ça.
Moi, alors, ce qui me travaille en ce moment, je m'intéresse depuis très très longtemps à la fin de vie et au problème du suicide assisté. En tant que Suisse, il y a déjà très très longtemps que nous sommes au clair sur cette question. En France, je sens que tout le monde y travaille, réfléchit, projet de loi par projet de loi et tout. Et des fois, en tant que croyant, je me dis, mais enfin, j'ai beaucoup d'amis croyants qui me disent, Jacqueline, mais c'est impossible. Dieu nous a donné la vie, c'est lui qui doit nous la reprendre. Et des fois, ça, c'est un sujet qui me travaille un peu.
Alors je me dis, répondre à cette question, moi, je réfléchis beaucoup
et je dis, mais surtout, Dieu, il nous a donné la liberté. C'est ça qui est important. D'être libre par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on pense. Moi, je ne veux pas qu'une personne me dicte quoi que ce soit dans ma vie. J'ai des idées précises qui sont inspirées par ma foi, etc. Donc voilà un sujet qui, en ce moment, on travaille.
D'accord.
Mais je suis persuadée, ayant vu des gens mourir dans d'atroces souffrances et sachant que ma fille, il y a 15 jours, a accompagné des amis en Suisse pour faire le suicide assisté. Elle m'a expliqué que c'était magnifique, finalement.
Oui.
Je crois qu'il faut qu'on aille de l'avant.
D'accord.
Et je ne vois pas pourquoi les églises, et je peux comprendre que l'église protestante, la fédération, avait dit quelques textes contre ce projet.
Oui, non, mais je sais que Bernard est d'accord avec ton évolution.
Entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'écris régulièrement au CEP à cause de ça.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Jacqueline, Bernard. On a cheminé avec vous et vous avez un témoignage qui nous interpelle aussi. À bientôt. Au revoir.
Merci de ton accueil.
Au revoir.